de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission consacrée évidemment au cinéma. Alors on a l'habitude de faire des blind tests, et puis quand il n'y a pas de blind test, on vous propose généralement des interviews. Il y en a souvent une, mais là aujourd'hui il y en aura trois. Nous allons entendre trois réalisateurs, et toi tu en as rencontré un, Sophia.
Oui, j'ai rencontré Simone Messa-Soto et son chef opérateur pour la sortie de Un poète.
Et puis Guillaume, il a rencontré François Ozon pour le film L'étranger, adaptation de Camus. Il nous parlera aussi du dernier film de Catherine Bigelow, A House of Dynamite. Et puis, il nous parlera aussi de Good Boy. Et puis, nous écouterons un autre réalisateur. Donc, c'est Thierry Cliffa, puisque tu vas nous parler de son dernier film.
Et oui, de la femme la plus riche du monde.
Et puis moi, je vous parlerai de L'homme qui rétrécit quand même, de Yann Kounen. Mais nous allons commencer avec la femme la plus riche du monde, derrière les milliards, le prix de la solitude.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Vous êtes la femme la plus riche du monde, ça vous évoque quoi?
Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux.
Présentée hors compétition au Festival de Cannes cette année, La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffa réunit un trio d'actrices emblématiques, Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Marina Foïs, entre autres. On retrouve donc Lafitte et Huppert après leur duo dans Elle de Paul Verhoeven en 2016, cette fois dans une relation d'abus qui joue sur l'ambigu. Et Huppert et Foïs se retrouvent pour la troisième fois ensemble à l'écran, ici en binôme mère-fille compliqué, dans un film qui s'inspire librement de l'affaire Bettencourt.
Jérôme, avec ce bouquet, je ne vois pas Guy, si vous pouviez enlever tout ça. On se croirait à l'aéroport de Honolulu.
Je veux que cette photographie raconte parfaitement la femme que vous êtes.
C'est qui ce photographe?
Pierre Alain-Fantin.
Ce que je veux voir, c'est une héroïne.
Il a une réputation épouvantable.
Je ne photographie pas les gens, je les emporte.
Rappelez-vous, en 2010, Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal et l'une des plus grandes fortunes du monde, se retrouve au cœur d'un scandale mêlant argent, pouvoir et manipulation. Sa fille Françoise accusait François-Marie Bagnier, photographe et proche de sa mère, d'avoir profité de la vulnérabilité de maman pour obtenir près d'un milliard d'euros en dons, œuvres d'art et contrats d'assurance vie. Après un procès très médiatisé, Bagnier fut reconnu coupable d'abus de faiblesse et condamné à 3 ans de prison et plus de 350 000 euros d'amende, plus dommages et intérêts. Cliffa transpose cette histoire en fiction pour mieux sonder le pouvoir de séduction, la solitude et les dérives d'un monde où tout, jusqu'à l'affection, possède un prix. Marianne Farrer, personnage que joue donc Isabelle Huppert, est l'héritière surpuissante d'un empire industriel, riche à l'excès. Elle vit dans un cocon de luxe et de méfiance et souffre de problèmes de dos. Un jour, elle fait donc la rencontre de Pierre Alain Fantin, joué par Laurent Lafitte, écrivain, photographe, charmeur, impertinent et obsédé par le confort matériel. Un coup de foudre immédiat lors d'un shooting arrangé par la fille de Marianne, exit les problèmes de dos, mais ce lien intime, nourri d'admiration, de dépendance et de manipulation, provoque une rupture dans l'équilibre familial. Frédéric, joué par Marina Foïs, c'est donc la fille unique de Marianne, elle veille sur l'héritage de sa mère et déteste l'irruption de ce parasite élégant. Même le majordome, incarné par Raphaël Persona, est bouleversé par Fantin, véritable tourbillon dans leur quotidien millimétré. Alors comment résumer l'histoire? Eh bien, comme dans la réalité, Bettencourt, richesse, solitude, désir, abus et pouvoir s'entrelacent dans un décor bourgeois glacé où brûle la folie. En somme, une succession à la française.
Mais arrête de glapir, Guy.
Oui, c'est exact, vous glapissez.
Je penserai à me faire le plein.
Ce n'est pas mon travail.
Oh.
Ça vous plaît?
Ah, c'est magnifique.
Allez, virez-moi cette croutasse. Vous n'avez rien à faire là, la bonicherie. Dehors!
Allez, raus! Grâce à vous, c'est comme si je revivais.
Ah, les voilà.
Elle est là, ma petite chérie.
D'un côté, la femme la plus riche du monde joue la pornographie de la richesse. Hein. Et cela peut devenir assez insupportable. On nous frotte vraiment le nez dans l'argent, la jouissance et l'abus. Et pourtant, bah, c'est ici volontaire, hein, l'absurde de ce milieu, la folie douce, malsaine d'un homme comme Fantin et la figure blessée de Marianne font que surgit quelque chose d'humain dans ce monde qui nous est si opaque. Lafitte est délicieusement sordide. Il affirme son obsession pour le confort matériel et dans cette franchise, il en devient aussi effrayant qu'admirable. Huppert, elle joue la milliardaire comme on joue un vieux roi fatigué, hein, souffrant de sa propre autorité, en détresse, aux prises avec le désir d'être aimé, d'être en vie. Et la vulnérabilité est rarement aussi glacée. Foyce, elle incarne parfaitement cette démangeaison des héritiers laissés pour compte. La mise en scène de Cliffa taillée au couteau permet de développer un ton qui alterne entre la satire mordante, le drame bourgeois et l'opérette grinçante. Certains diront que le film pêche par excès, de bruit, de faste, d'exhibition, mais c'est précisément ce qui le rend efficace. Il ne se cache pas.
Vous avez toujours été comme ça ?
Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qui est fermé en vous.
C'est vous qui avez la clé.
Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an, ça vous paraît une somme raisonnable ?
Il est hors de question que je passe une seconde de plus avec ce Picassiette.
Ne te lance pas dans une guerre contre Marianne. Elle s'aveugle, elle s'égare, mais elle revit.
Alors pour qui aime les acteurs et actrices au sommet, la mise en scène incisive et la satire sociale mordante, ce film est à voir. C'est un miroir éclatant et cruel, tendu à un monde que l'on croit connaître. Et Fantin, c'est une sorte de Tax Zuckman personnifié, hein, le panache en plus. Alors oui, la justice sociale ne le concerne en rien, il ne court qu'après ses propres intérêts. Mais au fond, ouais, bah, 2 millions, c'est quoi pour ces gens-là ?
Merci Sophia, je souscris totalement à tout ce que tu dis. Laurent Lafitte est vraiment exceptionnel dans ce rôle et je trouve que la mise en scène rend très bien compte de la solitude de cette femme et de comment on peut être englouti sous la richesse. Nous écoutons justement Thierry Cliffa qui était donc à Cannes pour présenter son film lors de la conférence de presse.
L'envie d'en faire un film est venue, c'est une réponse un peu bizarre que je vais faire, mais au moment où j'ai compris qu'il y avait un film. C'est-à-dire que si ça avait été simplement un docu-fiction ou une illustration d'un fait divers dont vous parlez célèbre, ça ne m'aurait pas intéressé. Mais après, en cherchant, en allant vers le romanesque, grâce à Cédric et à Jacques, et j'ai vu qu'il y avait un film, qu'il y avait une matière fictionnelle. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer... Il y a quand même une sorte de fascination pour les ultra-riches. Et c'est un milieu qui est assez peu montré en France, ce milieu de la grande bourgeoisie industrielle, française, catholique. Et voilà, ces personnages qui n'étaient pas simplement des archétypes, mais c'était des personnages avec des ambitions, des joies, des chagrins, l'ambition, et que ça me permettait de faire un film qui aurait un ton entre la tragédie et la farce.
C'était Thierry Cliffa, donc pour la femme la plus riche du monde, en salle depuis le 29 octobre. Lorsqu'un missile est lancé sur les États-Unis, une course contre la montre s'engage pour éviter la catastrophe. House of Dynamite de Catherine Bigelow, nous en parlons maintenant.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore, vous êtes la joie de mon cœur.
8 longues années après Détroit, voilà enfin le retour de Catherine Bigelow sur nos écrans. Malheureusement, on devra se passer du grand, hein, car probablement suite au gros bide totalement injustifié de Détroit, elle a, bah, comme beaucoup d'auteurs d'importance peinant à faire financer ses projets, trouvé refuge chez Netflix. Alors la première lecture de ce que propose l'histoire de A House of Dynamite, on pourrait se dire que c'est un projet rêvé pour la seule femme détentrice de l'Oscar de la meilleure réalisatrice, mais les coulisses furent plus compliquées que cela. Avant A House of Dynamite, hein, Bigelow planchait sur un énorme film de catastrophe qui s'est vu annulé sans trop d'explications et elle s'est rabattue sur ce projet. Alors ce jeu compliqué, hein, a des répercussions sur le film d'aujourd'hui, car s'il s'inscrit dans la lignée qu'elle a épousée depuis Des Mineurs en 2009, il porte aussi les stigmates de ce qu'elle aurait probablement voulu faire sur son film catastrophe annulé.
Je croyais que c'était juste histoire d'être paré à tout, que c'était pour impressionner, pour que le monde tourne rond. En voyant qu'on est prêt à réagir, personne ne commence une guerre nucléaire.
Un missile d'origine inconnue est détecté par les radars américains et une course contre la montre s'engage pour découvrir son identité, pour l'intercepter et empêcher la panique de prendre le pays, mais rien ne va se passer comme prévu. Alors si le temps de vol du missile jusqu'à sa cible, hein, Chicago, ne va prendre que 19 minutes, Bigelow adopte une narration empruntée et canonisée par Akira Kurosawa dans Rashomon et nous propose de suivre cette crise à travers plusieurs points de vue et donc répète l'action. On commence en bas de l'échelle hein, pour mieux remonter les galons jusqu'à terminer avec le président des États-Unis. Présenté comme ça hein, et bénéficiant de la mise en scène caméra à l'épaule documentaire de Bigelow adopté depuis des mineurs, ça ressemble à un épisode tendu hein, de la géniale série 24 heures chrono, mais d'entrée hein, on note des soucis. On nous vend un grand compte à rebours et un suspense terrifiant, mais l'action est sans cesse interrompue par des gens qui essaient d'appeler leurs proches, sont terrorisés, doutent et sont surtout tout plein de silence. Alors si on ne doute pas hein, du réalisme du facteur humain dans une telle situation, hein, rappelons qu'en cas d'explosion d'une ogive nucléaire, bah, plusieurs dizaines de millions de personnes mourraient d'un coup. On peut par contre douter d'une certaine véracité et probablement sacrifier sur l'autel de la dramaturgie. Y avait-il vraiment besoin de nous ressortir hein, dès les premières minutes les clichés éculés du bureaucrate qui a décidé de faire une demande en mariage, l'enfant de l'héroïne qui est malade, le pilote qui a un gosse de 3 ans et voudrait lui ramener une peluche, et j'en passe. Avait-on besoin de mettre en scène au milieu de cette journée d'enfer des gens assistant à une reconstitution de la bataille de Gettysburg et toute autre image issue de la plus radicale Americana pour titiller la corde sensible états-unienne? Alors, House of Dynamite hein, semble s'égarer dans les écueils longtemps reprochés à des cinéastes comme Roland Emmerich au lieu de se concentrer sur ce qu'on est venu voir, ce qui pourrait être ben, en fait l'un des restes de son fameux film catastrophe avorté mais mal digéré ici.
Il y a environ 3 minutes, nos radars ont détecté un missile balistique au-dessus du Pacifique. La trajectoire actuelle est cohérente avec un impact quelque part sur le territoire des États-Unis.
On a déjà vu un niveau 2 ?
Non.
On est sûr de ça ?
Le Stratcom veut l'ordre de déclencher un tir de représailles.
Il va falloir que vous respiriez.
On parle d'arrêter une balle avec une balle.
Alors on joue à pile ou face, c'est ça? On a investi 50 milliards de dollars pour un gadget?
En lieu et place hein, du thriller tendu, hein, l'effet Rashomon est contre-productif et on a l'impression désolante de voir bah, une version sérieuse de « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?». Absolument tous les plans hein, de défense ou de communication des Américains ratent. Hein. Ils n'arrivent pas à tirer le nombre voulu de missiles d'interception, celui tiré ne marche pas, on ne trouve pas le président. Alors les officiels semblent tous découvrir que la Corée du Nord est un territoire militaire et hostile, armé et en capacité de frapper, mini-cours de géopolitique à l'appui. Personne ne semble savoir ce qu'il doit faire alors qu'ils sont très nombreux et formés pour ce genre de cas. Et c'est une succession de poulets qui courent en tête dans tous les sens, qui s'enchaînent sans lien émotionnel avec le spectateur. Ben oui, pour créer de l'empathie, il faudrait caractériser ces personnages, ou tout du moins les plus importants, ce qui n'est ici jamais le cas. Hein, ce manque de caractérisation réussie hein, est particulièrement criminel hein, dans un film qui voudrait, intention louable, mettre en particulier l'humain au centre du processus, mais qui échoue jusqu'à sa conclusion polémique hein, qu'on ne dévoilera pas. Alors peut-être que cette frustration était le but secret recherché par Bigelow et son scénariste, mais en l'état, elle nous habitue à un cinéma bien plus adulte, intense, sérieux, documenté et crédible que cet étrange spectacle de plateforme hein, qui ne sait pas trop sur quel pied danser et qui peine à reproduire la réussite sur le même sujet hein, bah, du Docteur Follamour de Kubrick qui a déjà 61 ans.
The House of Dynamite de Catherine Bigelow est sur Netflix, film que moi par ailleurs je vous recommande. Cette idée de mettre trois points de vue, donc ça fait trois récits différents qui s'enchassent, donne une plus grande ampleur à ce film qui pointe finalement quelque chose de terrifiant, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer le titre, c'est-à-dire que une maison pleine de dynamite, et c'est un peu notre monde avec toutes ces ogives nucléaires qui sont détenues parfois par des pays peu recommandables. Voilà, c'est sur Netflix donc. L'absurde, la mort et le soleil d'Alger, une nouvelle lecture du chef-d'œuvre de Camus, nous parlons de l'étranger de François Ozon.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
C'est l'un des titres phares de cette fin d'année, l'adaptation jugée impossible du chef-d'œuvre littéraire d'Albert Camus, L'étranger, qui fut également son premier roman. Alors impossible car d'une part, hein, le roman est raconté du point de vue de son personnage principal, Meursault, un être froid, détaché de tout et profondément nihiliste, et est une réflexion sur la condition humaine qui bascule dans l'étude de l'absurde, pétrie de symboles et d'un désespoir prenant la forme d'un néant philosophique. Alors de l'autre, hein, parce que de grands noms hein, se sont déjà penchés sur une possible adaptation adaptation, comme Jean Renoir ou Ingmar Bergman, et que celle qui en sera tirée en 1967 par Luchino Visconti fut un échec imputable au fait que la veuve de Camus, hein, qui supervisait la production, avait tenu à ce que le film soit le plus fidèle possible au roman, hein, procédure incompatible avec ce que nécessite la transcription, hein, d'un texte en pur langage cinématographique. Alors aujourd'hui, c'est François Ozon qui s'y colle, hein, avec beaucoup de soin et de bonnes réflexions artistiques, mais pour un résultat en demi-teinte qui rappelle que le vide et les pérégrinations existentielles nécessitent une audace de mise en scène toute particulière. Alors j'en veux pour preuve, hein, la réappropriation visuelle qu'avait fait Francis Ford Coppola du Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad pour livrer à travers son Apocalypse Now un voyage au fond du cœur noir de l'homme, oubliant son récit guerrier pour mieux nous plonger dans la psyché d'un homme au bord du gouffre qui poursuit un autre homme ayant franchi toute barrière civilisée, lui renvoyant un miroir brisé de l'image qu'il se faisait de l'humanité.
Et nous écoutons François Ozon nous parler de L'étranger.
Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et... j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là.
En commençant l'adaptation, j'ai eu besoin de me replonger dans le contexte. Le livre est écrit en 1939, c'est l'Algérie française. Il est sorti en 42, donc la France, ce sont des départements français. Donc Camus, d'une certaine manière, il n'a pas besoin de décrire ça, puisque les Français connaissent cette situation. Ils sont en France, en Algérie. Et puis, je pense que Camus est tout à fait conscient de la situation des Arabes, de l'indigénat. Les Arabes sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Il avait écrit juste avant des très beaux textes sur la Kabylie, sur la pauvreté. Donc il est conscient de tout ça. Donc quand il écrit le livre, lui, il le porte en lui, mais c'est vrai qu'il ne le met pas dans le livre. Donc avec 80 années de recul, forcément, nous, ce qui nous choque aujourd'hui, c'est cette invisibilisation qui ne devait pas vraiment choquer à l'époque. Aussi parce que Camus, en écrivant ce livre, s'est inspiré un peu des polars et il appelle l'arabe comme il pourrait l'appeler l'égyptien, l'italien. Voilà, c'est un peu un code. Mais c'est vrai que nous, avec notre lecture et nos yeux 2025, on le lit complètement différemment. Donc pour moi, c'était évident, un peu dans la lignée de ce qu'a fait Kamel Daoud dans Meursault contre enquête, c'est de donner la voix aux Arabes tout en respectant Camus. Donc c'est un équilibre à trouver. Et donc je donne effectivement un nom à l'arabe, mais je développe aussi le personnage féminin de la sœur, qui n'a pas de nom non plus dans le livre et qui est juste une ombre. Hein. Elle n'est pas du tout développée. En fait, en travaillant sur l'adaptation, j'ai constaté que quand même tous ces mecs sont hyper toxiques. Hein. Il y en a un qui tape sa femme, l'autre qui tape son chien et l'autre qui tue un arabe à cause du soleil. Donc c'est difficile de s'identifier. Donc je me suis dit, les personnages féminins, au moins, vont provoquer un peu d'empathie.
Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser.
Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. D'abord, regrettez-vous votre acte?
C'est vrai que le livre est un monologue. Donc il y a cette tentation de se dire « Bon, bah, je vais tout faire en voix off ». Mais du coup, l'image allait être une illustration basique de ce qui était dit. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de différence entre la voix off et forcément les images. Pour moi, c'était évident, notamment dans la première partie, qu'il fallait être dans une position d'observation sur Meursault, de le regarder, d'essayer de percer son mystère. Alors je savais que ça n'allait pas jouer sur l'identification comme ça marche d'habitude au cinéma, on est plus dans une forme de fascination, mais et que la voix off, il fallait l'utiliser à des moments très ponctuels. Donc je l'utilise deux fois. En fait, j'ai utilisé les deux moments que je préfère dans le livre, qui sont deux moments très lyriques, finalement, dans l'écriture, assez poétique, dans la langue de Camus, assez différent du reste du livre, qui est plutôt une écriture blanche, sur une forme de ligne claire, quoi, assez moderne. Là, on est dans une forme d'écriture poétique, de la sensation. Et bon, après, je savais pas si ça allait marcher ou pas, hein. C'est au montage qu'on essaye. Et moi, je trouvais ça assez beau, notamment au moment du meurtre, c'est-à-dire de voir d'abord le meurtre, avec la mise en scène, les acteurs, et après entendre la voix de Camus. Et du coup, c'était une manière de mettre en parallèle à la fois la langue littéraire et la langue cinématographique. Et pour moi, ça crée une forme de vertige. Voilà, les deux se complètent et nous fait ressentir les choses différemment.
disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux.
C'était François Ozon qui nous parlait du film L'étranger en salle depuis le 29 octobre. Quand un homme voit son corps rapetisser, c'est tout son rapport au monde qui s'effondre. Nous parlons de l'homme qui rétrécit.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Fallait-il un remake de L'homme qui rétrécit, le film de Jack Arnold, sorti en 1957 et par la même occasion une nouvelle adaptation du roman de Richard Matheson? À cette question, Jean Dujardin a répondu oui, car c'est lui qui est à l'initiative du projet mené par Yann Kounen, le réalisateur de 99 francs, Blueberry et Doberman, qui n'avait plus fait grand-chose depuis quelques années. Alors pour son immersion dans le fantastique, il a fort à faire face à la concurrence de films comme Chien 51 et Kaamelott.
Il ne vous est rien arrivé de particulier? Un événement traumatique? Un choc émotionnel?
L'araignée, tu l'as?
Non, je vais pas la tuer, écoute. C'est utile les araignées, tu sais. Ça mange les moustiques.
Autant l'avouer d'emblée, je n'ai rien contre les dépoussiérages, surtout après 70 ans. Kounen se démarque du film original en privilégiant la famille, le personnage incarné par Jean Dujardin, Paul, qui rapetisse après sa rencontre avec un nuage bizarre, une petite fille et une femme aimante. Ce contexte ajoute évidemment de la noirceur à son sentiment d'abandonner un état. Non seulement il voit que plus les jours avancent, plus il rapetisse, mais en plus il observe comment son entourage, peu à peu se délite jusqu'à le croire mort, tellement il devient inaudible, perdu dans la cave, après avoir été coursé par le chat. L'homme qui rétrécit est quasiment à huis clos, la maison devient le théâtre de l'angoisse existentielle de Paul, un entrepreneur qui commence à avoir du mal à joindre les deux bouts. Kounen insiste sur la portée métaphysique de l'histoire, à savoir la prise de conscience de la petitesse de l'homme face à l'immensité de l'univers, un questionnement qui va finir par se résoudre en une acceptation de son sort, réalisant que l'existence ne se limite pas à la perception humaine, quelque chose nous dépasse. Il est par ailleurs dommage que Kounen ait autant recours à la voix off pour expliciter ce que vit intérieurement le personnage, alors qu'à l'extérieur il doit lutter pour sa survie en échappant aux insectes et autres arachnides et en se contentant du peu de nourriture qu'il peut trouver. Du point de vue de l'action et du fantastique, Kounen s'en tire très bien sans que les effets spéciaux, qui ne sont pas tous numériques, ne sautent aux yeux. C'est là l'un des grands mérites du film, qui certes revisite un grand classique du cinéma sans utiliser de grands effets qui deviendraient rikiki. L'homme qui rétrécit est actuellement en salle. En Colombie, un jeune homme tente d'exister à travers les mots dans un quotidien sans horizon. Nous parlons d'un poète.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
C'est un film qui sent la sueur, la poésie et le rhum tiède. Un poète du réalisateur colombien Simon Mesa Soto, prix du jury dans la catégorie Un certain regard à Cannes cette année. Le cinéaste n'en est pas à son premier passage sur la croisette. Il y avait déjà présenté Amparo en 2021 et il poursuit ici son exploration d'une Colombie intime entre la famille, la société et le désenchantement du quotidien. Tourné en 16 mm, le film a cette texture unique, un grain presque nostalgique et dévoile un bord qui resserre le cadre comme une vignette. Clin d'œil discret, mais bien visible à un autre temps, celui des beatniks et des poètes new-yorkais. Au centre, Oscar Restrepo, interprété par Ubeymar Rios, un non-professionnel, un professeur dans la vraie vie, découvert sur Facebook et formé pendant 5 mois. Poète raté, vaniteux et malheureux, Oscar idolâtre José Asuncion Silva, suicidé à 30 ans, un poète national relégué sur un billet de 5000 pesos, loin derrière Garcia Marquez, icône du billet de 50 000. Le film questionne donc la notoriété, la souffrance comme moteur de création et la vanité d'un certain idéal artistique. Oscar, alcoolique, romantique, vit chez sa mère, se débat avec lui-même d'abord, mais aussi avec deux jeunes femmes. Yurlady, son élève qu'il veut façonner en grande poétesse, et sa propre fille qu'il a trop longtemps négligée. Mais Yurlady refuse cette trajectoire héroïque, elle veut simplement une vie tranquille, loin du mythe de l'artiste maudit. Et c'est là que le film émeut, Yurlady devient le relais, le miroir du cinéaste lui-même qui enseigne encore à côté de son art dans la vraie vie et regarde avec ironie ce besoin de reconnaissance, celui d'Oscar notamment. Cela donne même lieu à des changements de focalisation, de très beaux moments de poésie dans le film où l'on se détache du point de vue d'Oscar pour adopter celui de la jeune femme. Montage nerveux, musique free jazz, humour noir offrent un cinéma de pulsations frénétiques, éminemment drôle et tendre à la fois. Et pour en parler, j'ai eu la chance de rencontrer Simon Mesa Soto et son chef opérateur Juan Sarmiento, qu'on écoute tout de suite.
Como que los artistas tenemos una relación intrínseca con el sufrimiento, pero yo soy un poco nihilista también, entonces soy como pesimista.
De toute façon, les artistes en général ont ce lien
intrinsèque avec la souffrance. Oui, certes, c'est un cliché qu'il voudrait casser. C'est pour ça qu'il aborde ça. Et il dit l'art, de toute façon, est belle et il souhaite montrer un autre visage à part la souffrance. Donc il commence tout d'abord par la souffrance, le plus laid, le plus mauvais du visage, de la souffrance, pour ensuite dire que c'est vraiment autre chose. C'est dans la beauté, il trouve la beauté. Tout cinéaste devrait ne pas souffrir, ne pas être dans la souffrance, ni être obsédé par le futur. Et il veut une paix mentale, un art avec de l'amour, de la beauté. Et c'est pour ça que dans la lumière du film, il y a ces réponses comme il souhaite que ça soit.
Et on écoute le chef opérateur Juan Sarmiento.
Realmente, si, desde que empezamos a hacer cine, siempre queríamos filmar en cine.
Donc, il dit que c'était 16 mm en fait. Il dit que oui, qu'il y avait effectivement une patine vieillie, mais c'est un choix. Ça fait un peu sale et ça donne une particularité au film quand les spectateurs vont le regarder. Et c'est aussi dans le lait qu'il y a la recherche de la beauté. Donc, c'est ces deux visages. Voilà. Le monde qui est vieux, des poètes, des artistes, et aussi une certaine temporalité. Et ils sont conscients de ça, mais c'est fait exprès, voilà, pour montrer ces deux visages, le lait et la beauté.
C'était Juan Sarmiento.
Donc le chef opérateur du film Un poète en salle depuis le 29 octobre. Un thriller mordant où un chien bien dressé devient le reflet terrifiant de la docilité humaine. Nous parlons de Good Boy.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Des chiens dans le cinéma fantastique ou d'horreur, il y en a un paquet. Alors de Cujo à Max, le meilleur ami de l'homme, en passant par le chien des Baskerville, ils sont d'inépuisables sources d'angoisse intime puisqu'ils représentent littéralement la bête domestiquée qu'on a fait rentrer dans notre foyer ou que l'on a tout simplement apprivoisée, mais qui reste une bête qui n'attend qu'un événement pour réveiller ses instincts primaires. Good Boy, soit la traduction anglaise de bon chien, c'est l'inverse. Le coup de génie du réalisateur et scénariste Ben Leonberg, oui, il a le nom d'une race de chien, ça ne s'invente pas, et d'avoir imaginé que le protagoniste principal de son film serait un gentil chien qui va tout faire pour aider son maître attaqué par des forces obscures. Et il ne s'arrête pas là. Si, comme dans L'Ours de Jean-Jacques Hano, on suit son parcours et on s'attache à ses émotions via le procédé de l'effet Kuleshov, on reste intégralement à sa hauteur, comme quand Spielberg cadrait son E.T. intégralement à la taille d'un enfant de 10 ans. Le procédé n'est pas totalement neuf. Les spectateurs du film à sketch de style phone footage VHS 2 se rappellent du segment Slumber Party Alien Abduction réalisé par Jason Eisner où la caméra était fixée à un chien et on suivait tout à son niveau jusqu'à une fin pétaradante. Mais ici, on suit Indy, un Golden Retriever qui a le même nom que le chien de George Lucas qui, lui, a inspiré le nom d'Indiana Jones. Si, si, c'est bien vrai. Indy est le vrai chien du réalisateur qui l'a fait tourner sur 400 jours étalés sur 3 ans pour suivre le rythme du chien. Good Boy est avant tout un petit film fantastique indépendant qui a su faire le buzz, affolant même la toile où la question « est-ce que le chien meurt à la fin ?» a été un temps en tête des recherches, preuve que Leonberg a su bâtir un film concept en faisant vibrer une corde sensible. Alors je vous en dirai pas plus car à la manière de La Maison du Diable de Robert Wise, le fantastique et le mal peuvent avoir plusieurs visages et c'est au spectateur de se faire son propre choix. Ceux qui ont bien compris cela, c'est les dirigeants de la plateforme de screaming Shadows qui a organisé une mini sortie événement sur 2 jours, le 10 et 11 octobre, avant de lâcher le toutou dans la nature, ou plutôt en ligne, ce 31 octobre, pile pour Halloween. Alors s'il n'est pas un chef-d'œuvre, Good Boy, avec ses 1h13, est une expérience amusante, touchante et assez singulière pour mériter le coup d'œil. Alors on souhaite une bonne carrière à Ben Leonberg, et surtout une bonne chance pour la poursuivre, parce qu'il va falloir trouver aussi original maintenant.
Ce film Good Boy, qui est sorti seulement 2 jours en octobre dans les salles de cinéma, sera joué sur la plateforme Shadows à l'occasion d'Halloween.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et tu nous parleras d'une comédie.
Et oui, moi je reste fidèle à Laurent Lafitte et je vous parlerai de T'as pas changé.
Nous parlerons aussi du Roi des Rois et de Grafted. À la semaine prochaine.